Hornung, le passager de première classe. Lorsqu'on remonta le câble à bord et que s'échangèrent les dernières salutations habituelles entre le remorqueur et le paquebot qui l'avait amené au large, Strimshaw desserra les dents et se mit à dégoiser avec autant de cynisme que de sincérité. Il venait précisément de se faire la réflexion que c'était le dernier lien qui le rattachait à la terre ferme. Il éprouvait un vif soulagement à le savoir rompu. Déjà, la côte d'Irlande n'apparaissait plus à l'arrière que comme une chose insignifiante. Celle d'Australie était à l'autre bout du monde. Le capitaine ne pensait point passer en vue d'aucune autre durant tout le voyage, et Scrimshire avait reçu de lui l'assurance que, normalement, la traversée ne pourrait pas s'effectuer en moins de 90 jours. Donc, quel que fût le résultat final, il avait toujours 3 bons mois en perspective et 3 bons mois de cette liberté relative dont on peut jouir à bord d'un voilier. Il descendit dans sa cabine, en referma la porte à clé et s'allongea sur sa couchette pour y lire plus commodément ce que les journaux racontaient sur le crime. C'était en effet, et la chose lui paraissait en vérité assez étrange, c'était en effet la première occasion qui s'offrait à lui de lire le récit de son propre crime. Mais les circonstances un peu spéciales dans lesquelles s'était opéré son départ l'avaient frustré et de bon nombre de satisfactions dernières, et il n'était que trop heureux d'avoir les journaux à lire à présent, en même temps qu'une cabine à lui tout seul pour les savourer, car la mer était grosse et Scrimshire n'était qu'un marin d'eau douce. Il avait là 5 journaux datés du matin même. Le crime s'y trouvait relaté en bonne place sur tous, et 2 d'entre eux lui avaient même consacré des articles de première page. Lorsqu'il en eut terminé la lecture, Scrimshire ne put réprimer un gros soupir. Il lui était pénible, en effet, de songer que, désormais, il ne pourrait plus avoir de nouvelles avant 3 mois. Au premier repas, il ne put s'empêcher de céder à la tentation qui l'obsédait de faire allusion, sans avoir l'air d'y toucher, à l'assassinat qui avait été commis sur le Caledonian Railway. Mais, bien qu'en ayant entendu parler, le capitaine et ses officiers ne paraissaient pas s'y intéresser le moins du monde, de sorte que Scrimshaw, je vois plus sage de feindre une indifférence égale à la leur, échangea aussitôt de conversation. Ce fut la seule faiblesse dont il se rendit coupable. Après cela, il jeta tous ses journaux par-dessus bord et fit appel à toute sa volonté pour vaincre la stupide et malsaine vanité qui lui avait inspiré. Pour de remords, il n'en avait aucun. En pendant 3 grands mois, il avait la certitude de ne pas s'en être inquiété. Aussi résolut-il de bien profiter de son temps d'ici, là, et comme il avait une personnalité qui s'imposait, il eut vite fait de se gagner les sympathies et de dérider tout le monde à bord. Il sut tellement bien s'y prendre qu'au bout d'un mois, il jouissait d'une popularité aussi grande parmi les hommes de l'équipage que parmi les passagers de seconde et les officiers. Mais voici qu'un beau matin, Scrimshire s'éveilla avec la sensation qu'il se produisait quelque chose d'insolite, et tout aussitôt il eut le pressentiment qu'un danger immédiat le menaçait. Il y avait bien trop de cris et d'aller et venir au-dessus de lui sur le pont. Ce n'était pas naturel, car le bateau était régulièrement poussé par les vents alizés du nord-est et voguait aussi paisiblement que possible. Scrimshaw se dressa sur son séant et guetta à travers le hublot de sa cabine. À 3 ou 4 milles par bâbord, un transatlantique était en train de les dépasser, se dirigeant lui aussi vers l'ouest. En somme, cela n'avait rien en soi d'inquiétant. Et cependant, Scrimshaw en conçut quelque inquiétude, puisqu'il monta tout droit sur le pont, simplement vêtu de son pyjama, et en arrivant sur la dernière marche de l'échelle, s'arrêta un instant, sa mâchoire, maintenant toute barbue, devenue plus saillante qu'elle ne l'avait jamais été. Quatre petits pavillons flottaient l'un au-dessus de l'autre à la corne du mât de misaine, et sur la dunette se tenait l'imposante silhouette du capitaine, avec ses longues jambes plantées en équerre et sa longue vue fixée à son œil. Près de lui se trouvait son second, jeune homme plutôt naïf, qui salua Scrimshire d'un hochement de tête. Qu'y a-t-il, Mac Kendrick? Qu'est-ce que c'est que ce bateau? Oh, c'est un paquebot de la Castle Line, un des paquebots de Donald Carey, qui font le service du Cap. Et pourquoi lui avez-vous fait des signaux? Murmura Scrimshire. Oh non, c'est pas nous qui l'en avons fait, c'est lui qui nous en a adressé. Et savez-vous de quoi il s'agit? Non, mais le capitaine le sait, lui. Pendant qu'ils parlaient ainsi, le capitaine se retourna vers eux, et au premier coup d'œil, Scrimshire devina son secret. Ce secret, c'était le sien, que l'on avait découvert depuis sa fuite et que les drapeaux du transatlantique venaient de faire connaître en le proclamant par-dessus les mers. Maintenant, le capitaine le toisait de la tête aux pieds, et l'expression jusqu'alors avenante de sa physionomie avait tout à coup fait place à une grimace de haine et d'horreur. Scrimshire comprit aussitôt qu'il devait avant tout feindre de se croire encore à l'abri des soupçons. Oh, bonjour, capitaine, s'écria-t-il avec cette familiarité enjouée qui s'était établie entre eux. Ah, savez que diable signifient donc tous ces signaux? Vous avez envie de le savoir? gronda le capitaine d'une voix tonnante en le regardant dans le blanc des yeux. Je crois bien que j'en ai envie. Et en disant cela, Scrimshire souriait de façon si aimable et simulait une si complète indifférence que le commandant demeura tout perplexe. Eh bien, mêlez-vous de vos affaires, grommela-t-il enfin, et que je ne vous reprenne pas à monter sur ma dunette ou à m'adresser la parole à l'officier de quart, sans quoi gare à vous. Peste, murmura Somchin en saluant d'un air profondément vexé. Mais quelques instants après, lorsqu'il se retrouva dans sa cabine, en face de sa glace, il avait le front tout couvert de gouttes de sueur. Ainsi donc, il était découvert. Le commandant venait d'être avisé qu'un assassin se trouvait à son bord. Des policiers viendraient à la rencontre du bateau dans la baie d'Hudson et le ramèneraient par le canal de Suez, le meurtrier, qui serait ensuite condamné à mort sans devoir autrement profiter de son butin qu'en tentant un inutile voyage autour du monde. Ce n'était pas la première fois que pareille chose se produisait. Elle était advenue déjà au premier qui avait commis un vol dans un train. Seulement, celui-là, c'était de sa faute, car en fuyant, il s'était trompé de chapeau et avait laissé le sien derrière lui comme pièce à conviction. Mais lui, Scrimshire, que diable avait-il pu oublier pour qu'on pût ainsi retrouver sa trace? Il avait beau chercher, il ne voyait pas ce que cela pouvait être. D'ailleurs, qu'importait? Ce qui devait le préoccuper par-dessus tout pour le moment, il l'avait deviné tout de suite. C'était la nécessité de jouer la comédie de telle sorte qu'on ne pût se douter un seul instant qu'il se savait suspecté. Et pour cela, il faudrait se montrer toujours à l'aise et continuer à aller revenir tranquillement, comme si de rien n'était. De cette façon, peut-être se dispensera-t-on de le mettre au fer, sachant qu'à la fin du voyage, les policiers seraient là pour accomplir la vilaine besogne. Or, après 2 mois entiers devant lui, un homme va forcément découvrir un moyen quelconque de se tirer d'affaire. Sinon, c'est qu'un imbécile. Il mérite bien d'être pendu. La première journée ne fut pas la plus compliquée. La rudesse dont le capitaine avait fait preuve à son égard était plus que suffisante pour justifier un changement d'attitude chez n'importe qui. Skrimshire eut donc doublement raison de bouder pendant le reste de la journée. La scène de la matinée avait été colportée sur tout le bateau. Cependant, autant qu'il lui était permis d'en juger, le capitaine n'avait confié à personne ce qu'il avait appris. Le second l'invita à venir fumer un cigare dans sa cabine et lui raconta les mêmes histoires que d'habitude, comme s'il n'y avait absolument rien de changé. Seulement, il ne fallait pas trop se fier à cela, car le commandant était un vieux loup de mer tenace dont le visage ne laissait jamais rien voir du fond de sa pensée. Peut-être savait-il tout, peut-être ignorait-il tout. Le plus sage parti à prendre pour Scrimshire était donc de s'en tenir à la première hypothèse et, par conséquent, de produire sur le second une impression favorable grâce à l'exubérance et à sa légèreté de cœur. Dans le courant de la matinée, il eut une conversation avec le lieutenant McKendrick. Ce fut peu de chose, mais il n'en fallait pas davantage pour affermir les convictions qu'il s'était formées au sujet des signaux. « Mais qu'est-ce que j'ai donc fait ? » demanda-t-il à McKendrick, « pour que le vieux s'emballe ainsi contre moi ?»« Mais non, ce n'est pas vous, ce sont les signaux qui l'avaient mis de mauvaise humeur. » « Seulement, vous auriez pu choisir un moment plus propice pour le questionner. » « Mais enfin, de quoi parlait-il donc ces maudits signaux ?»« Oh, quant à cela, je l'ignore, mon cher Bennett. » C'était le nom dont se faisait appeler Scrimshire depuis son embarquement. « Et ne vous serait-il pas possible de le savoir ?»« Oh, si, peut-être. » D'ici quelque temps. Et pourquoi pas tout de suite? Parce que le patron emportait le livre, le code des signaux, comme on dit. D'habitude, c'est moi qui suis chargé de le garder. Mais le patron en a eu besoin et il n'y en a pas d'autre exemple à bord. Ah, très bien, je comprends. Oh, ça devait être quelque chose de personnel, j'en suis bien sûr. Mais aucun de nous ne sait de quoi il retourne, et nous ne le saurons sans doute jamais, car il n'a pas pour habitude de renseigner ses voisins sur ce qu'il fait, le patron. Le vieux, comme l'appelait Scrimshire, n'était en réalité pas plus âgé que lui, mais il avait conquis tous ses grades, un à un, après avoir débuté comme simple moussaillon, et sa cruelle enfance d'abord, puis les lourdes responsabilités qui lui étaient incombées, de bonne heure, l'avait beaucoup vieilli et endurci. Beau type de marin et chef résolu, quoi qu'emporté, le capitaine Nelson avait aussi le cœur sur la main et l'âme ingénue. Scrimshire le savait fort bien, et tout en affectant de bouder sur son pliant, à la poupe du quatre-mâts marque l'or, et en considérant le capitaine qui, sur ses semelles de caoutchouc, allait et venait silencieusement comme un lion en cage, en s'arrêtant de temps en temps pour le dévisager d'un air préoccupé, il songeait à la façon dont il pourrait le mieux tirer parti de ses qualités si précieuses. C'était un duel aussi intéressant qu'original que celui qui s'engageait en ce moment entre ces deux hommes énergiques, opiniâtres et volontaires. Mais l'un était aussi roué que l'autre, était loyal, et non content de lire, comme dans un livre, au fond de l'âme de celui qui lui était supérieur par sa loyauté, il s'arrangeait encore de manière à lui faire lire en lui quelque chose de très évident et de très plausible. L'idée ne lui vint pas un seul instant de se faire passer pour un innocent aux yeux du capitaine. Cela l'obligerait à changer d'allure et en prendre d'autres qui ne seraient pas celles d'un homme ignorant que les signaux du matin avaient été échangés à propos de lui. Au contraire de ce qu'il avait été jusqu'alors et de ce qu'il devait être à plus forte raison maintenant, se donner l'air d'être, c'est le coupable qui ne redoute pas d'être jamais pincé et qui est à 100 lieues de croire qu'on en est arrivé à le soupçonner. Oui, c'était bel et bien ce rôle-là, et pas un autre qu'il devait jouer. Jusqu'ici, il s'était borné à le jouer instinctivement. Désormais, il lui faudrait le jouer volontairement. Scrimshaw supposait le capitaine assez fort et assez humain pour ne rien faire ni rien dire à personne jusqu'à l'arrivée à bord des policiers australiens. Mais en somme, il n'en avait aucune preuve. Il se pourrait fort bien aussi que Nelson le laissa libre pendant tout le voyage pour le mettre au fer au dernier moment. En ce cas, il eût été plus charitable à lui de le faire dès à présent. Quoi qu'il en soit, s'il ne dépendait de lui, Shrimshire, on ne lui mettrait nul maintenant ni plus tard. Aussi, à la première occasion qui se présenta, s'empressa-t-il de glisser à ce sujet une insinuation subtile et indirecte, encore que très osée, sur les graves conséquences que pourrait entraîner un pareil procédé si on le lui appliquait. Cela se passa au repas de midi, tandis que la fumée du malencontreux paquebot formait encore un panache noir à l'horizon. Nelson demeurait morose et silencieux, et le passager de première classe, gardant toujours ses grands airs offensés, continuait à ne pas lui adresser la parole et à ne pas même le regarder, en affectant de causer avec plus d'entrain et de volubilité que jamais avec le second et les autres officiers. Les yeux obstinément fixés sur son assiette, le capitaine se creusait la cervelle pour découvrir le plan le plus susceptible de réussir et ne prêtait à la conversation qu'une oreille fort discrète. Comment en vint-on à parler de suicide? Il n'a jamais bien su. Et moi, je prétends que c'est une lâcheté, déclarait le jeune McKendrick. Vous direz ce que vous voudrez, mais je maintiens qu'il ne faut pas être un homme pour faire une chose pareille. Eh bien, mon cher, pensez-y la prochaine fois que vous serez en train de vous raser, riposta Scrimshire d'un ton aimable. Essayez de vous représenter un instant par la pensée et le rasoir qui vous entre dans la gorge, la douleur qui résulte et puis le sang vous gicle sur les doigts comme si vous aviez ouvert un robinet d'eau chaude. Et pour peu que vous y pensiez suffisamment longtemps, vous me direz ensuite si oui ou non c'est l'acte d'un lâche. « Oh, moi, si j'avais à le faire, dit le lieutenant, me ferais sauter le caisson, ce serait plus vite fini. »« Eh bien, moi, répondit Scrimshire, je préférerais avaler de l'acide prussique. »« Oh, j'admets qu'il faudrait une circonstance bien grave pour que je m'y décide. »« Mais s'il s'agissait d'échapper à une mort plus désagréable, je suis sûr que je n'hésiterais pas une seconde. » C'est pourquoi je me suis demandé bien des fois comment il peut se faire que, de notre temps, des hommes de bon sens n'attendent pas leur jour quand ils savent sur le point d'être condamnés à mort. Le capitaine, qui jusque-là s'était borné à écouter vaguement ce qu'il disait, redressa tout à coup la tête en entendant ces paroles. Mais c'était au second, placé à l'autre bout de la table, que Scrimshaw s'adressait. Et ni ses regards, ni le ton de sa voix, n'étaient assurément destinés à frapper le capitaine Nelson, puisqu'il avait les yeux détournés et baissait le ton de sa voix comme pour manifester plus insolemment son dédain. D'autre part, cette théorie sur le suicide était exposée avec autant d'audace que de nonchalance, et on y sentait poindre un tel accent de sincérité que cela intéressa vivement le capitaine. En un mot, Scrimshaw avait l'habitude d'un homme à ce point convaincu de ne courir aucun danger, qui croyait pouvoir se permettre la fantaisie de dire la vérité sur son propre compte, tout en ayant l'air de plaisanter. « Oh, quand on en est là, on n'a pas le choix des moyens, » repartit le colonel. « On vous épie nuit et jour, et il faudrait... » joliment adroit pour pouvoir se tirer d'affaire une fois qu'on a été condamné. Mais néanmoins, je vous répète que je le ferai, riposta Scrimshaw avec une joviale assurance. Pour ma part, je me porterai garant d'y parvenir, et cela sous les propres yeux de ceux qui seraient chargés de m'en empêcher. Mais comment cela, avec du poison? Oui? Dans le chaton d'une bague, hein? Oh, une bague! Vous figurez-vous donc qu'on vous laisse les bagues, vos bagues? Oh non, non. Ce serait peut-être, moi, dans une dent creuse. Peut-être autrement, mais dans tous les cas, je peux vous certifier une chose. C'est que le bourreau n'aurait jamais ma peau. Scrimshire fit une pause, puis reprit en caressant sa barbe noire. Eh, croyez que je ne vous dis pas cela pour rire. Je donne ma parole que je le ferai. Alors le capitaine se décida à placer un mot. Je vous approuve, dit-il d'une voix calme. J'ai assisté une fois à la pendaison d'un homme, et je vous garantis que j'en ai pas envie de recommencer. Pah! Ses yeux se rencontrèrent avec ceux de Scrimshire, qui s'abaissèrent aussitôt. Et jusqu'à la fin du repas, celui qui d'habitude se montrait si loquace se renferma dans un mutisme absolu. À la suite de cet incident, Nelson le traita avec la politesse la plus irréprochable, mais par contre se mit à l'observer de très près. En 20 jours, on était passé de la longitude du cap à celle de l'île de Kangourou, et tout laissait prévoir qu'on atteindrait dans 48 heures les pointes de Fort Philippe. En l'espace d'une semaine, le Inuit Nord avait parcouru une distance de près de 2 000 miles. De toute sa vie de marin, le capitaine avait accompli un voyage aussi satisfaisant que celui-ci, et cela lui procurait un tel plaisir et flattait si bien son amour-propre que Scrimshire pouvait le supposer avec juste raison encore mieux disposé et que jamais vis-à-vis de tout le monde. Toujours est-il qu'il se promit bien d'avoir recours à la compassion que tout honnête homme est susceptible d'avoir pour un criminel menacé de l'échafaud. Et il rumina son plan avec ce mélange de ruse cauteleuse et de hardiesse imprudente qui faisait de lui le redoutable bandit qu'il était. C'était la nuit qui serait probablement la dernière nuit du voyage et la dernière nuit de liberté du malheureux Scrimshire. Malheureux, il était incontestablement, car la nécessité de continuer jusqu'au bout son rôle de bout en train avait mis son système nerveux à bien rude épreuve. Mais ce soir-là, tandis qu'il allait et venait sur le gaillard d'arrière à côté du commandant, il laissa voir pour la première fois des symptômes de découragement, qui d'ailleurs concordaient, on ne peut mieux, avec l'idée que Nelson s'était formé sur son compte. Eh bien, je n'oublierai jamais de ma vie cette traversée, déclara Scrimshire en soupirant. Vous me croirez si vous voulez, commandant, mais je regrette qu'elle se termine. Je le regrette sincèrement. Et pourtant, je le sais bien. Je dois vous paraître bizarre, car tous les autres, au contraire, paraissent enchantés de l'avoir fini. Et pourquoi donc le regretterez-vous? Lui demanda le capitaine Nelson, en le considérant pour la première fois avec une curiosité qui le tourmentait depuis si longtemps, et en même temps avec toute la sympathie qui lui était venue pour cet homme, en dépit ou à cause des signaux lancés par le paquebot. Scrimshire haussa les épaules. Oh, ce serait trop long à vous expliquer. J'ai mené une drôle d'existence et ma vie n'a pas été précisément ce qui s'appelle exemplaire. Ce que je puis vous certifier, en tout cas, c'est que cette traversée en aura été l'un des plus heureux chapitres. Et qui sait, peut-être en sera-t-elle aussi l'un des derniers. Mais pourquoi dites-vous cela? Sait-on jamais ce qui vous attend? Mais enfin, quels étaient vos projets en vous embarquant pour l'Australie? Ben, vous parlez franchement, j'en avais aucun. Je me suis simplement dit, advienne que pourra. Et je suis parti. Eh bien, espérons qu'il se maintiendra. Au revoir, commandant, et merci 1000 fois de votre complaisance. Quelle nuit noire, dites. Oui, Dieu veuille que la prochaine le soit moins. Mais au contraire, la nuit suivante fut bien plus obscure encore. Il n'y avait ni lune ni étoile. Et Scrimshaw se félicita d'avoir saisi à temps l'occasion de parler au capitaine, car à présent, ce dernier était trop préoccupé par la direction de son navire pour entamer une conversation avec lui, que ce fut. Et le lendemain, il n'y avait pas de lendemain dans l'esprit de Scrimshaw. Il n'y avait que ce soir. L'heure qu'il attendait depuis si longues semaines allait enfin sonner. Il allait lui falloir mettre à exécution le plan qu'il avait conçu tout d'abord sous les vents alizés du sud-est, qu'il avait mûri ensuite pendant la traversée de l'océan Indien, et qui venait seulement d'arrêter, quelques heures auparavant, d'une manière définitive. Mais désormais, tout était combiné à souhait. Il n'y avait plus qu'à agir. Après, on verrait bien. « Est-ce que ce n'est pas leur bateau, monsieur ?» C'était le premier steward qui demandait ce renseignement, et dans sa hâte de savoir, il s'attardait à l'arrière. Le capitaine se tenait un peu plus loin. Une figure inquiète et éclairée par le rougeoiement d'un cigare, et surmontée d'un béret bleu, c'est tout ce que l'on apercevait de lui au milieu des ténèbres. On venait de masquer la voilure de la grande vergue. Le second était maintenant sur la passerelle, en train de surveiller l'installation de l'échelle de corde sur le plat-bord. Scrimshaw, à l'aide de sa jumelle, observait le cotre du pilote, ou plutôt ses feux de position, et autant que lui permettait leur maigre clarté, la petite embarcation qui dansait maintenant contre les flancs du cotre. « C'est le bateau, n'est-ce pas, monsieur ?» insista le steward. « Je crois que oui, oui, » répondit Scrimshaw. « Mais de combien d'hommes le pilote est-il accompagné habituellement ?»« Bon, temps ordinaire, il est tout seul, avec un marin pour le conduire. »« Ah, dites-moi, Seward, voudriez-vous rendre cette jumelle au second ?»« Moi, il faut que je descende un instant dans ma cabine. Surtout ne manquez pas de bien remercier de ma part le second de m'avoir prêté sa jumelle. Elle m'a été très utile. » Ce disant, Scrimshaw descendit en coupant ses alliés des cabines. Le ton de sa voix, pour prononcer ces quelques mots, avait été fort étrange, mais ce fut seulement plus tard que le steward s'en avisa. Pour le moment, il était lui-même trop émotionné et en même temps trop heureux de pouvoir lordier le bateau avec une jumelle pour attacher autrement d'importance à des considérations de ce genre. « Mais non, de non, mais ils sont quatre !» constata le steward avec étonnement. « Mais que vient-il donc faire ? Je me le demande !» La réponse ne se fit pas attendre. Quelques minutes après, en effet, les quatre hommes étaient à bord et gravissaient à la même échelle dont Scrimshaw s'était servi pour descendre. Le pilote marchait le premier. Nelson les reçut sur la dunette. « Permettez-moi de vous présenter mes compliments, commandant, » dit le pilote. « Nous nous attendions guère avant la semaine prochaine. »« À présent, si vous le voulez bien, » continua-t-il en baissant la voix, « je vais vous présenter l'inspecteur Robbins de la police de Melbourne. Ce monsieur qui l'accompagne est un de ses subalternes. Et mon matelot est monté à bord afin de prendre un billet qu'il est chargé d'aller porter à terre. » « Monsieur Robin désirait vous dire un mot avant que nous le laissions partir. »« Oh, il n'y a rien qui presse, car je crains fort d'être obligé d'attendre le jour pour vous faire entrer dans le port. » Nelson attira l'inspecteur à l'écart. « Oui, je sais ce que vous êtes venu faire, » dit-il. « Le Garth Castle m'a fait savoir par signaux. »« Oui, je sais, je sais. Est-ce que vous le tenez? Est-ce que vous le tenez ?» trancha brusquement Robbins. « Rassurez-vous, » répondit à voix basse le capitaine. « Il est sain et sauf et se croit bien tranquille, le pauvre diable. »« Alors vous ne l'avez pas fait mettre au fer ?»« Non, je jugeais préférable de m'en abstenir. »« Et il serait évidemment suicidé. »« Et je me méfiais de cela, car je m'étais arrangé pour lui faire dire sa façon de penser sans qu'il s'en doutât, » déclara l'astucieux capitaine. C'est moi-même qui avais eu les signaux. Je me suis bien gardé de rien dire à personne. Le brave homme paraissait tout content dans lui. Mais le détective ne chercha pas à dissimuler le mécontentement que lui inspirait cette nouvelle. Enfin, tout ira bien si notre homme ne nous joue pas la comédie, dit Robbins. En attendant, capitaine, je vous prierai de vouloir bien me le présenter. Avec votre autorisation, nous passerons l'un et l'autre, ou même tous les deux, la nuit auprès de lui. Eh bien, allez l'inviter de ma part à venir boire à la santé du pilote. Je le présenterai au pilote et vous pourrez ensuite en faire ce que bon vous semblera, continua le capitaine, chez qui l'on soupçonnait l'ardent désir de se débarrasser, une fois pour toutes, de cette tâche pénible. Seulement, je vous avertis, méfiez-vous. Ou je me trompe fort, ou cet homme est capable de tout. Capable de tout, ricana l'inspecteur. Ah, parbleu, ben nous le savons bien. Le crime qu'il a commis est un des plus sinistres qu'on ait engendré en registrant l'Angleterre depuis longtemps. Tout son plan était combiné d'avance. Sa victime se trouvait dans un wagon du train et lui dans un autre. Et il a eu le sang-froid de l'aller rejoindre en longeant les marchepieds, pendant que le train passait sous un tunnel, de la tuer à travers la glace de la portière et de regagner son compartiment par le même chemin. Oh, il s'agissait d'une vengeance. Celui qui l'a tué n'était pas un individu bien recommandable non plus, mais il n'en sera pas moins pendu, quand même. Et notez que c'est au dernier moment, tandis qu'il allait rejoindre votre bateau, qu'il a accompli son forfait. Son passage était retenu d'avance. Ah, pour un gaillard flegmatique, c'est un... À ce moment, le steward reparut, les traits décomposés, à bout de souffle. Commandant, sa porte est fermée. Oh, c'est son habitude de toujours la fermer, s'écria le capitaine, tandis que Robin se précipitait vers l'échelle en grommelant un juron. Oui, mais cette fois-ci, j'ai beau frapper et refrapper, il m'a pas répondu, répliqua le steward. À peine avait-il prononcé ces mots que, comme pour lui donner un démenti formel, on entendit la détonation formidable que produit un coup de revolver déchargé dans un espace restreint. Quelques instants après, l'inspecteur se précipitait dans le petit salon, suivi de près par tous les autres, qui eux-mêmes étaient suivis d'une foule de curieux attirés par le bruit. Il ne fallut pas longtemps pour deviner quelle était la cabine du coupable. Un petit nuage de fumée blanche s'échappait à travers les lames des volets. Tout le monde le vit, et la stupeur générale fut si grande que, sur le premier moment, personne ne dit mot. Enfin, Robin se retourna vers le capitaine. C'est vous qui êtes cause de ce qui arrive, commandant, maugréa-t-il. Et c'est vous qui aurez à vous en justifier. Nelson fit volte-face. Il était tout blême, mais blême de colère. Oh, c'est bien ce que je ferai, gronda-t-il, mais pas auprès de vous. J'ai pas de compte à rendre à un misérable policier australien, ni d'insultes à recevoir. Pardieu, monsieur, prenez garde. Je suis maître à mon bord et j'entends y rester. Un mot de plus et tout détective que vous êtes, je vous fais jeter à la mer. Allons, accomplissez votre besogne et enfoncez cette porte. Mes affaires ne concernent que moi seul et je ne permettrai à personne d'y fourrer son nez. Le charpentier fut obligé de jouer des coudes pour se frayer un passage à travers la foule qui se pressait dans le salon et jusque sur les degrés de l'échelle. Mais lorsqu'il eut rejoint le détective, il se mit rapidement à la besogne et peu de temps après, la serrure fut forcée. La porte tourna sur elle-même au milieu du silence qui avait tout à coup succédé aux conversations animées de tout à l'heure. La voix du policier éclata brusquement. Vite, oh, nom d'un chien! Hurla-t-il. Arrêtez-le! Il nous a filé entre les doigts! Un revolver pendait à une patère contre l'une des cloisons de la cabine. Suspendu à cette patère par un bout de ficelle d'un mètre de long attaché à la gâchette. Un autre bout de ficelle, mesurant quelques pouces, était fixé à la crosse et s'était rompu en brûlant. De même qu'un troisième bout de ficelle pendait à un autre patère sur la cloison opposée. Par terre, il y avait un petit morceau de bougie. La ficelle avait été disposée de telle façon qu'elle le traversait de part en part, comme le prouvait l'empreinte restée dans la paraffine. Scrimshire, avant de partir, avait tendu ce dispositif en travers de la cabine et allumé la bougie. Le revolver, pendu par sa gâchette, comme on pend un homme par le cou, était tombé d'une hauteur de 3 pieds et avait fait feu au moment même où la flamme de la bougie avait consumé la ficelle. Telle était la combinaison que l'esprit ingénieux, quoique pervers, de Scrimshire avait imaginée et perfectionnée pendant plusieurs semaines. Nelson monta sur le pont en courant. Il y trouva tout le monde penché sur le bastingage et ahuri par un nouveau coup de théâtre. Le pilote vint à sa rencontre à l'arrière. Mon embarcation a disparu, s'écria-t-il, et fait noir comme un enfer. Nelson s'arrêta pétrifié. Avez-vous laissé un homme à bord? Non, mon matelot était monté avec moi pour prendre un télégramme qu'on l'avait chargé de remettre à la police de la ville. Mais alors, que voulez-vous que j'y fasse? Et le capitaine se pencha, lui aussi, sur la lisse du couronnement. Silence, rugit-il, que tout le monde se taise. Puisque nous ne pouvons rien voir, écoutons. C'est cela, pas un mot, pas un murmure, attention. Sur le premier moment, on n'entendit pas autre chose que la respiration haletante des 50 gorges serrées. Puis bientôt, quelque part dans la nuit, parmi l'obscurité impénétrable, on discerna le grincement atténué d'un aviron dans son tollet qui allait s'éloignant, s'éloignant et diminuant de plus en plus. Mais dans quelle direction? Nul n'aurait pu le préciser par une semblable nuit.